École normale supérieure, savoir en multimédia.
L'islam politique croise la structure que je vous propose à quatre reprises notre intelligibilité du printemps arabe. Ça sera le plan de mon intervention. L'islam politique, le phénomène islamiste, est au cœur de la configuration qui va permettre à l'autoritarisme arabe de perdurer pendant 2 ou 3 décennies, dans les circonstances que l'on verra. Mais disons, pour faire simple, l'autoritarisme se reproduit d'autant plus facilement qu'il n'existe pas dans l'opinion publique occidentale et dans la classe politique occidentale d'alternative autre que le pire à ceux que j'ai nommés de ce petit nom charmant de Pinochet arabe. Les régimes autoritaires arabes sont parvenus à nous convaincre qu'il n'existait pas d'alternative autre que le pire du pire. Et donc, l'opinion publique occidentale, et puis une partie de la classe politique ou de la société civile dans le monde arabe, a cautionné pour ne pas avoir à faire face au pire du pire. Donc, premier point de départ. On y reviendra, donc, bien sûr. L'islam politique a été un élément du dispositif qui a permis à l'autoritarisme arabe de s'inscrire dans la durée. Deuxièmement, sa fugitive disparition de notre champ de vision pendant le début du printemps a été un élément essentiel pour la réception des printemps arabes et pour la ferveur qui s'est manifestée, et c'est une très bonne chose, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais le printemps arabe, c'est une des plus belles pages de l'histoire contemporaine de cette région du monde. C'est une page qui s'inscrit de façon douloureuse, contradictoire, c'est pas simple, mais c'est une très belle page. Eh bien, le fait que l'islam politique ait disparu du champ de vision des observateurs occidentaux est un élément très important sur lequel on va revenir et qui explique en partie cet accueil enthousiaste et ce changement substantiel de la diplomatie française qui, après avoir soutenu pendant 25 ans des régimes illégitimes et répressifs, va passer à l'extrême inverse et va entreprendre de surfer les mouvements de libération. Troisièmement, évidemment, eh bien, les formations de l'islam politique nous reviennent, si je puis dire, non pas dans la figure, parce que ce n'est pas du tout ma perception, mais reviennent au centre du champ de l'analyse, dans la mesure où les résultats électoraux vont les faire apparaître comme les acteurs majoritaires dans à peu près tous les pays de la région. Et puis, je rajoute un quatrième, que j'ai esquissé tout à l'heure, je rajoute un quatrième angle, un quatrième temps de la relation de l'islam politique avec les printemps arabes, ça serait en quelque sorte la fin des printemps, ça serait le fait que cette relative banalisation des relations, des formations de l'islam politique avec la classe politique et médiatique occidentale, on a l'impression qu'elle est derrière nous et qu'on est en train de revenir à des postures qui nous rappellent le pire. Je ne prendrai qu'un exemple. Deux des ministères français ont pris très solennellement un communiqué stigmatisant la présence de Tariq Ramadan à Paris comme étant quelque chose susceptible de mettre en danger la République. Et là, on a l'impression qu'on est revenu. Et alors, il y a beaucoup d'autres clignotants comme ça qui montrent qu'on est en train, bien sûr, atmosphère électorale exige, on est en train de revenir à ce vieux tempo. Où on cultive petit être des nôtres, celui qui ne boit pas son verre comme les autres. On a l'impression qu'on est revenu à cette chanson-là, donc qu'on avait un petit peu distancé à un moment. Alors, l'islam politique était au cœur de ce que j'ai appelé la formule politique arabe. La formule politique arabe, c'est la désinstitutionnalisation des capacités de la société à exprimer ses réserves à l'égard des dysfonctionnements du politique. La société n'est pas, les mécanismes de représentation ne fonctionnent pas, Et donc, les mécanismes institutionnels permettant à la société de résister à l'autoritarisme des régimes ne fonctionnent pas. Et donc, les protestations se font en désordre. Et donc, les forces politiques institutionnalisées ne sont pas des forces politiques réelles. Hein ? Il y a une déconnexion entre l'univers institutionnel, reconnu par le droit constitutionnel, reconnu par le droit associatif, et les aspirations de la société à s'exprimer, à s'opposer. Il y a un débrayage du système institutionnel, un désengagement du système institutionnel par rapport aux mécanismes de distribution du pouvoir de décision. On peut, à la limite, remporter les élections au Maghreb. Qu'est-ce que ça va changer ? Le pouvoir, les humeurs, les décideurs sont à l'abri des humeurs électorales de leur population. Complètement. Quand bien même les populations parviendraient à exprimer un désaveu électoral et qu'ils prennent le Parlement, et même qu'ils prennent le gouvernement, ils ouvrent les tiroirs, il n'y a rien dedans. Le pouvoir de décision est beaucoup plus haut, il est chez les conseillers du roi, si on est au Maroc, chez les conseillers du président, ou même pas, parce qu'en Algérie, le président n'est pas président, c'est comme moi, je ne suis pas directeur d'ICO, le président n'est pas président. Depuis Chadli Ben Jedid, le chef de l'État n'est pas chef de l'État. Le chef de l'État est une transaction entre des rapports de force militaires qui se mettent d'accord pour une façade institutionnelle. Donc, on a un système institutionnel qui est déconnecté de la réalité de la société. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Il faut le comprendre si on veut comprendre comment ça va se passer au moment des printemps. Pourquoi ce ne sont pas des forces politiques en ordre de marche, avec leur étiquette, qui vont monter à l'assaut du pouvoir. Comment ça s'explique que c'est une expression atomisée de la société, d'autant plus puissante qu'elle va être désidéologisée. On ne va pas avoir besoin d'un lexique ni islamique, ni de gauche, mais c'est vraiment le plus grand dénominateur commun de l'expression du ras-le-bol qui va se focaliser autour du mot « dégage » ou « respect » ou « karama » ou « hurriya » et sans avoir besoin de renvoyer au lexique respectif des forces politiques institutionnalisées. Donc on vient d'où dans le monde arabe ? On vient de cette formule arabe qui s'est mise en place en 1990. 1990, il faut se rappeler que c'est un an après 1989. 1989, c'est des élections en Tunisie. On regarde un peu ce qu'il y a dans les urnes. Oulalalalalala, c'est pas du tout la couleur qu'on a envie de voir. En Jordanie, la même chose. Des élections. En Algérie, la même chose, des élections. Et on commence à comprendre, les pouvoirs commencent à comprendre qu'ils ne peuvent pas réguler, ils ne peuvent pas se maintenir au pouvoir par le biais des mécanismes électoraux classiques. Hein. Ils ont perdu d'avance. Ils comprennent qu'ils n'ont pas la majorité dans les urnes et que ce sont des partis qui parlent musulmans, qui sont les alternatives oppositionnelles principales. Donc ils se referment. Ils se referment sur des solutions répressives et souvent, pour simplifier, je dis, dans le monde arabe, les institutions de répression prennent le pas sur les institutions de représentation. Hein. C'est vraiment la définition de la formule politique arabe. Un système institutionnel qui est déconnecté, les forces politiques, les élections ne servent pas à désigner ceux qui vont exercer le pouvoir, elles servent à désigner ceux qui acceptent de jouer la comédie du pluralisme devant les caméras des télévisions européennes. Hein. « For the Yankees to see », selon une formule célèbre utilisée à propos des régimes d'Amérique latine. Et donc, inévitablement, le dysfonctionnement que j'ai souvent demandé à Tarek El-Bishri de décrire, l'intellectuel égyptien, qui avait ces formules que j'ai utilisées depuis toujours, mais qui rend très très bien compte, je pense, de l'atmosphère de tout le monde arabe. Et qui, Tarek Bishri disait, quand les veines d'un organisme ne laissent pas passer les flux véritables, lorsque le droit ne reconnaît pas des entités réelles et consacre l'existence d'entités qui n'ont pas d'existence, alors la société tout entière risque de glisser vers la schizophrénie. toute cette région du monde, le monde arabe, était politiquement schizophrène lorsque commencent les mouvements de protestation par le printemps de Tunisie que nous avons tous à l'esprit. La disparition fugitive de l'islam politique au moment des printemps. Quand je veux être méchant, il y a 15 jours, j'ai fait une conférence, je me suis aperçu à la dernière minute, j'étais dans une municipalité communiste, et pourtant je voulais emprunter une image, mais je l'ai dit avec beaucoup de tendresse, je voulais me servir, et je vais me servir, de l'affiche qu'a utilisée le Parti communiste pour la fête de l'humanité de septembre 2011. Je pense que pour caractériser le trompe-l'œil des printemps arabes, la façon dont le regard occidental a idéologisé ce moment de l'histoire et a voulu croire qu'un individu, un Orient aseptisé était né de cette révolte qui avait balayé toutes les sources d'inquiétude et de différence entre nous et eux. Et l'affiche de la fête de l'UMA, pour le coup, le PCF retrouve une stature véritablement nationale parce que ça reflétait très très exactement l'idéologie de toute la gauche et de toute la droite. Alors, que représente l'affiche que vous pouvez googler, c'est très très facile si vous voulez la voir. Vous faites fête de l'humanité, vous la retrouverez. Alors évidemment, est-ce un homme ou est-ce une femme? Non, bien sûr, c'est une femme. Nous aimons beaucoup plus les femmes. Au sud de la Méditerranée, nous avons quand même un penchant pour les femmes. Et interrogeons-nous quand même sur le fait de cette difficulté que nous avons de créer une relation avec le mâle musulman. Nous avons une fascination pour la femme et nous avons cette espèce de tradition républicaine française qui est notre arme politique absolue. Notre arme secrète, nous libérons les épouses de ceux qui nous résistent. Donc nous... dès qu'on nous résiste, je libère votre épouse et donc émerge du printemps français une jeune fille dont je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle ne porte pas sur elle la moindre trace d'une appartenance à la culture musulmane. Donc la jeune fille, il est évident qu'elle ne va pas avoir un chapeau pointu ou un truc suspect sur la tête. Non, elle a de splendides cheveux. Mais ce n'est pas tout, parce que l'un des effets de trompe-l'œil des printemps arabes, c'est qu'on a dit « Oh ! Non seulement il n'y a plus un islamiste dans le paysage, mais il n'y a pas eu un seul slogan anti-israélien ou anti-occidental. C'est vraiment tout le monde est devenu beau, tout le monde est devenu gentil. Le mâle musulman agressif anti-occidental a fondu comme neige au soleil au printemps arabe. Et donc la jeune fille, qui avait de splendides cheveux, avait également une guirlande de drapeaux pour décorer ses cheveux. Et bien évidemment, vous devinez quel drapeau flottait allègrement sur cette vision aseptisée de cette nouvelle population politique qui était apparue. Eh bien, c'était bien sûr le drapeau israélien. Donc, nous avions, parmi les autres, bien sûr, mais parmi les autres, cette jeune fille avait une guirlande de drapeaux dont elle n'avait surtout pas exclu le drapeau israélien, ce qui voulait dire, ben voilà, nous sommes dans un monde d'où tout ce que le mâle musulman antagonique avec toutes nos valeurs et nos alliances politiques a disparu du paysage. Alors, bien sûr, inutile de vous dire que cette vision qu'on a vraiment très très bien entendue, et je me rappelle même de propos tenus par un grand nombre de dirigeants politiques, les printemps arabes, c'était des petits jeunes sympathiques, ils étaient sympathiques parce qu'ils étaient jeunes, mais parce qu'ils savaient se servir d'un ordinateur. Ils étaient sur Twitter et sur Facebook, donc ça ne pouvait être que des gens bien. Et toute forme de différence et de différent avait fondu dans cette génération Facebook, cette génération Twitter. Et on sait depuis, bien sûr, après, on va avoir un processus lent où ce dont les tenants du pouvoir acceptent de se dessaisir aux enchères électorales va être approprié par des forces politiques qui ont des couleurs traditionnelles. Et parmi ces couleurs traditionnelles, on sait très bien que les courants islamistes vont prendre la part du roi. Je ne dis pas la part du lion, parce qu'en arabe, ça se dit Assad. Et ça dit toujours, après, ça donne des mauvais jeux de mots. Donc, La fugitive disparition du champ de vision est un élément très très important dans le positionnement occidental vis-à-vis des printemps arabes. Les printemps arabes ont bénéficié d'un préjugé favorable immédiatement qui vont expliquer que la diplomatie française va faire un virage à 180 degrés après avoir pris une gifle sur la joue droite, la joue tunisienne, une gifle sur la joue gauche, la joue égyptienne. Nous décidons que désormais, et c'est une très bonne chose, et il faut s'en féliciter, nous allons mettre nos œufs dans le panier de ces mouvements de libération et donc nous allons les soutenir. Nous allons les soutenir dans des conditions contradictoires et difficiles puisque un autre trompe-l'œil. On a beaucoup dit, par exemple, les printemps arabes ont tué Ben Laden puisqu'ils ont démontré que cette région du monde avait désormais renié à tout usage de la violence. Oui, je veux bien, si ça vous soulage ou si ça nous soulage, mais dans la réalité, dès lors que les verrous politiques se sont révélés ce qu'ils étaient, la violence légitime, entre guillemets, a repris ses droits. Lorsque des populations se sont trouvées menacées dans leur existence, la self-défense, disons, a repris ses droits et la violence n'avait bien sûr pas disparu. On a surdéterminé la force du processus tunisien. Qu'est-ce qui s'est passé dans le processus tunisien? Qui c'est le héros du printemps tunisien? C'est l'armée tunisienne. C'est l'armée tunisienne qui est la seule des armées de tout le dispositif régional qui n'a pas voulu jouer un rôle politique central dans cette conjoncture. Alors, c'est une armée qui a sa caractéristique propre. C'est une armée de fonctionnaires, c'est une armée, on va dire, ne nous méprenons pas au sens français du terme, c'est une armée de fonctionnaires qui obéit au pouvoir politique, alors qu'en Égypte, on est dans une configuration totalement différente. L'armée est, c'est le premier propriétaire foncier. Elle est intrinsèquement incrustée dans le tissu économique. Et donc, elle est un acteur économique essentiel, elle est un acteur politique essentiel. Et bien sûr, la rupture ne va pas se faire de la même manière. Au Yémen, elle ne se fera pas de la même manière. Et une partie de l'appareil d'État va se diviser, se mettre au service de la contre-révolution ou se maintenir au service du pouvoir. En Syrie, dans une conjoncture différente, vous le savez, ce n'est pas non plus le processus tunisien. Donc, la disparition de l'islam politique conjoncturellement est un moment très important qui explique la configuration internationale, qui explique que la configuration internationale se soit recomposée de façon si spectaculaire au service des mouvements de révolte, avec les conséquences que l'on sait dans la configuration libyenne. Alors, on y viendra, bien sûr. La configuration internationale va opacifier la dynamique des printemps. Parce que, bon, je ne préjuge pas de votre état d'esprit et de vos affiliations politiques, mais du jour au lendemain, se retrouver dans le camp de Bernard-Henri Lévy, pour certains d'entre nous, je ne dis pas nécessairement pour tout le monde, ça faisait un choc. Et néanmoins, ou de voir des barbus crier « Vive Sarkozy !» On se sentait un peu déphasé. Hein. Et il est évident qu'un certain nombre, certaines composantes du militantisme arabe et européen, et notamment pro-palestinien, vont se retrouver tout à fait décontenancées face à la configuration. Est-il possible que l'on soutienne quelqu'un qui est soutenu par, allons-y dans l'ordre, l'émir du Qatar, les Saoudiens, Bernard-Henri Lévy, le président Sarkozy? Ça commence à faire beaucoup. Alors on se dit, il faut peut-être en tirer la conclusion que Bachar est un saint homme et que nous devons le soutenir et ne cesser de soutenir son opposition. Et donc on va avoir ce phénomène réactif, hein, on va avoir, disons, un phénomène de pacification de la scène internationale. Il devient moins simple de décrypter qui sont les bons et qui sont les méchants dans cette conjoncture. Et un certain nombre d'entre nous, tous autant que nous sommes, allons avoir des états d'âme. Alors bien sûr, après le rôle joué longtemps par l'islam politique dans la formule arabe, c'est-à-dire c'est moi ou en gros Ben Laden, Et souvenez-vous de la ce que j'ai appelé la Ben Ladenisation des oppositions. Depuis 2001, nous étions incités, toute résistance au régime arabe était Ben Ladenisée, c'est-à-dire qu'on, y compris d'ailleurs dans le conflit israélo-arabe, hein, on essayait de faire la joncture avec les formes les plus inacceptables de la frange radicale des courants islamistes pour discréditer absolument toutes les oppositions. Alors, premier rôle de l'islam politique, deuxième rôle de l'islam politique, il a la gentillesse de disparaître fugitivement au début des printemps. Troisième rôle, bien sûr, il revient massivement. Alors, il revient massivement avec des conséquences. Ça pourrait être le... je vous rassure, j'ai bientôt fini, mais ça pourrait être le corps de mon intervention de voir... cette fois-ci, comment l'islam politique, c'est-à-dire comment les courants de l'islam politique vont être affectés par la réouverture du système politique au niveau national, hein, par cette nouvelle configuration des systèmes politiques locaux. Alors, cette centralité, ce retour des islamistes, je vous propose de le traiter en quatre points. Bon, d'abord, rappeler bien sûr que ce retour électoral très spectaculaire n'a pas la même signification si on est en Tunisie ou si on est au Maroc. Au Maroc, on est dans une situation pré-printemps. D'accord ? Donc, oui, le vote veut dire quelque chose, veut dire que quand on ouvre, quand on enlève les restrictions juridiques de toutes sortes, sur le paysage politique, sur le paysage électoral, dans l'arène électorale, ce sont bien. Alors là, on est au cœur de mes radoteries sur la perception que j'ai de l'islam politique, j'en placerai quand même deux, trois phrases dessus. Ce sont bien les gens qui parlent musulmans de façon ostentatoire qui remportent la donne. C'est-à-dire la capacité de mobilisation des forces politiques qui parlent musulmans est supérieure à la capacité de mobilisation des forces politiques qui font un enjeu de précisément se démarquer de la terminologie de la culture religieuse. Cela, ils n'ont pas de superficie électorale dans cette région du monde. Ils en ont sur les rives de la Seine. Ils en ont au nord de la Méditerranée, en proportion inverse. Mais ça ne veut pas dire qu'on les condamne ou qu'on les critique. Attention, mais je veux dire, si on est seulement en termes d'analyse et d'observation, ceux qui font de leur... ceux dont le fond de commerce est la criminalisation des courants islamistes n'ont pas de véritable superficie électorale au sud de la Méditerranée, ou en ont beaucoup moins qu'on croyait qu'ils en avaient. Hein. J'ai failli, je me souviens, me faire lyncher, ce qui m'arrive régulièrement, aux rencontres d'Averroès il y a 3-4 ans, je pense, où j'avais dit d'une collègue qu'au demeurant j'aime, je respecte et je côtoie régulièrement, de l'Union tunisienne des femmes démocrates, j'ai dit oui, d'accord, mais il faut quand même avoir conscience que l'Union tunisienne des femmes démocrates, vous voyez, 5 et je retiens un, nanana, c'est 5% de la population tunisienne au maximum. Et là, la salle avait failli me lyncher, jusqu'à ce que quelqu'un, tout à fait par hasard, se lève et dise, vous savez, il n'a peut-être pas complètement tort, faites attention. Et j'avais repris, j'avais dit, pardonnez-moi, je vais corriger mon expression qui était un peu simplificatrice. Je dirais, l'Union tunisienne des femmes démocrates, ce n'est pas 3% de la population tunisienne, c'est quelques centaines de femmes des beaux quartiers de la capitale. Et ça ne passait pas comme message, parce qu'on voulait que ça soit l'alternative légitime à l'horreur. Il y avait les méchants généraux ou bien les gentils anti-islamistes. Et dans la réalité complexe, ça n'est pas exactement ça. Donc, le retour des islamistes, c'est, enfin le retour, c'est le retour, c'est l'arrivée, parce qu'ils étaient interdits d'accès à la scène politique légale, hein, c'est pas le retour, c'est l'émergence, la montée en visibilité, parce qu'ils ont désormais, sans restriction, accès à la scène politique légale. Mais, pour donner du sens à aux catégories que je vais vous proposer après. Alors là, c'est le petit baratin de synthèse sur comment j'ai appréhendé le phénomène de l'islam politique dans les dans les publications que j'y ai consacrées, c'est-à-dire en gros, l'islamisme au Maghreb, qui est maintenant chez Payot dans la petite collection, dans la petite bibliothèque, et qui a 23 ans. Alors j'ai des défauts, mais vous pouvez googler, je ne vends jamais mes livres, vous pouvez retrouver la plupart online. Je n'enlève pas une virgule à l'introduction de l'islamisme au Maghreb, publié en 1988. Je demande qu'on me juge maintenant sur ces pages d'écriture-là. En 1988, j'estime qu'elles ont traversé sans trop de difficultés l'épreuve du printemps arabe. Et puis après, l'islamisme en face, et puis après, l'islamisme à l'heure d'Al-Qaïda. Alors, quelle est la thèse que j'ai déplacée dans ces trois... dans ces trois ouvrages qui sont constants au niveau méthodologique? J'ai dit, il y a deux questions qui se posent. Il y en a une à laquelle il est facile de répondre. La deuxième, il est très difficile d'y répondre. La première question, c'est pourquoi dans cette conjoncture historique, quand on fait de la politique dans cette région du monde, il vaut mieux avoir le « i » de « islam » dans le sigle de son parti. C'est-à-dire pourquoi l'usage ostentatoire de la terminologie de la culture musulmane mobilise, rapporte. À cette question-là, je dis, il est relativement facile de répondre. La poussée islamiste, c'est-à-dire la résurgence du vocabulaire de la culture musulmane, n'est pas une percée religieuse. Le secret de la capacité de mobilisation de la référence islamique, c'est pas qu'elle est sacrée, c'est qu'elle est endogène. Donc nous assistons à un phénomène de résurgence de catégories qui sont perçues comme homemade. Avant toute chose, homemade. Il se trouve que le homemade, c'est la culture religieuse. Il se trouve que c'est la culture religieuse qui a résisté le mieux à la trop bonne santé des catégories de la culture occidentale au moment du choc colonial. Mais on ne doit pas se focaliser sur le caractère religieux de la culture islamique. Et vous voyez que là, je suis éventuellement, le cas échéant, en tension avec mes amis musulmans. Cette explication-là n'est pas nécessairement celle qui plaît le plus. C'est celle que je propose en tant qu'analyste. Je dis, ce qui fait la vertu de la capacité de mobilisation de la référence islamique, c'est avant toute chose qu'elle referme la parenthèse de la fracture coloniale. Elle renoue le fil de la continuité symbolique avec la culture du père ou du grand-père. Elle redonne à la culture perçue comme héritée du grand-père son droit à exprimer l'universel. Ça, c'est un phénomène, et elle redonne à l'autre les attributs de l'altérité. Ça ne veut pas dire que je t'aime pas, mais toi, c'est toi, moi, c'est moi. Et moi, je parle musulman. Et plus je parle musulman, plus tu perds l'inertie. Et plus ça me plaît, parce que, en gros, c'est quand même l'objectif du processus, c'est de déplacer sur le terrain culturel ce processus de remise à distance de l'Occident au terme de la « mais » alliances coloniales. Ça s'est passé sur le terrain politique avec les indépendances, ça s'est passé sur le terrain économique avec les nationalisations, ça se passe sur le terrain symbolique avec cette remise en scène du système symbolique que je perçois comme étant celui que j'ai, même si tout cela est idéologique. Est-ce que c'était la référence islamique qui était la source normative? Tout ça peut se discuter après au niveau scientifique, mais au niveau idéologique, c'est je restitue à la culture du père son droit d'exprimer l'universel. Bon, à cette question-là, donc, j'ai répondu. Nous sommes devant une dynamique identitaire. Ça vous plaît, ça vous plaît pas, ça nous plaît pas, c'est la même chose. C'est pas quelque chose sur lequel nous avons prise. Des sociétés au sein desquelles nous avons été beaucoup trop présentes, de façon très unilatérale et très agressive, rétablissent une distance symbolique avec nous, en faisant réémerger la sémantique de leur expression. Ça, c'est un processus qui est relativement normal. Après, qu'est-ce qu'on devient quand on se met à causer musulman? Est-ce que ça rend gentil? Oui, répondront les musulmans. Est-ce que ça rend méchant? Est-ce que ça rend comme si? Est-ce que ça rend comme ça? Là, la réponse, elle est très simple. C'est « je n'en sais rien ». ni moi, ni vous. Nous devons aller, à ce moment-là, examiner des situations sociales, sociopolitiques diversifiées dont les variables qui les déterminent sont plurielles, sociales, économiques, etc. Si je suis un musulman et qu'on me marche sur la gueule, je vais avoir tendance à devenir le Hamas. Et si je suis un musulman qu'on laisse vivre de façon sans contrainte politique majeure, je vais avoir un mode d'expression de mon islamité qui sera moins nécessairement porté sur le recours aux armes. Hein ? Et on va avoir donc un islamisme qui va s'exprimer dans le champ politique et dans le champ social sur des registres extrêmement diversifiés. Je reviens maintenant à mon questionnement. Comment ce phénomène islamiste de résurgence du lexique musulman s'articulant au renouvellement du champ politique, comment va-t-il traverser la tempête ou les bouleversements que nous sommes en train de vivre? Ces bouleversements, quels sont-ils? Des systèmes politiques verrouillés se déverrouillent. La diversité du champ politique a droit à l'expression. Qu'est-ce que ça va donner comme phénomène? Eh bien, les extrêmes vont apparaître. Mais également, le tronc commun va se couler dans des modes d'action qui ne sont plus déterminés par la répression dont il était l'objet. On a tout un processus de banalisation, hein, d'installation des islamistes dans les logiques de l'exercice du pouvoir. Alors, on peut couper ça en trois ou quatre morceaux. Il faut bien simplifier un peu. Dans cette salle, je me souviens d'avoir répondu à la question « Qu'est-ce que c'est les salafis ?» Je ne sais pas combien de temps que j'ai sévi dans cette semaine arabe, 3-4 ans. Ça a donné un article dans Le Monde diplomatique que vous pouvez parfaitement retrouver. Hein, les salafis contre les frères. Les salafis, pour faire très simple, c'est des islamistes qui, quand ils voient un frère musulman, ils tapent dessus. Voilà une catégorie très simple. Ce sont des islamistes qui reprochent aux frères musulmans la rapidité d'un processus de réappropriation de catégories de la pensée occidentale qu'eux-mêmes n'ont pas, un processus de contextualisation et de réappropriation de certaines catégories de la pensée occidentale qu'eux-mêmes ne veulent pas auxquels ils ne veulent pas procéder, à l'égard duquel ils sont dans une posture de rejet, de refus, beaucoup plus carré. Dans la génération salafi, j'ai proposé, tout ça peut se discuter, qu'il y a une dimension générationnelle. J'ai dit en gros, c'est les salafis avant tout le monde. Il y a les salafis avant tout le monde. Les frères musulmans émergent sur le champ salafi. La matrice de l'islam, c'est plutôt les salafis dans les années 20 et dans les années 30. Dans les années 20 et dans les années 30, les gens qui ont un respect, qui estiment que les codes éthiques, politiques, sociaux doivent être empruntés à une lecture scrupuleuse de la révélation coranique et des dits du prophète, vont voir pousser une catégorie nouvelle. Ce sont les gens qui disent « Oh, il faut aller à l'essentiel ». J'aime bien situer cette anecdote-là pour séparer les frères musulmans des salafis. Les salafis vont se laver avec le petit bâton de bois les dents parce que c'était l'usage du prophète. Et les frères musulmans vont dire « Le prophète nous a dit la santé buccale est extrêmement importante, l'hygiène buccale est extrêmement importante et donc tout moyen d'y parvenir doit être renforcé ». Sur le terrain, j'avais vécu cette anecdote qui me paraissait très 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 révélatrice d'un frère musulman soudanais dans les années 70 qui me racontait sa naissance en tant que frère musulman et me disait « Nous, on est arrivés dans des villages et les gens, ils se battaient pour savoir si on avait le droit de prier en pantalon. » Et nous, on leur a dit « Mais ça, c'est des chacliettes, c'est des choses formelles, ça n'a pas d'importance. » Ce qui compte, c'est votre relation au Créateur, c'est la façon, c'est votre foi, etc., etc. Et donc, on avait, disons, une vision un peu littéraliste, un peu formaliste, refusant de s'interroger sur la portée des rites. qui séparait une famille de pensée, puis une famille politique qui a émergé comme étant les frères musulmans. Eh bien, pour situer très très brièvement les salafis, je dirais que les frères musulmans sont arrivés à sont perçus par les salafis comme ayant fait tellement de concessions à l'univers de la pensée occidentale qu'il est nécessaire qu'un cycle réactif nouveau vienne réaffirmer le primat de la pensée musulmane sur les catégories de la pensée occidentale. Et donc on a ce cycle, mais ce cycle n'interdit pas, j'ai fait un autre papier assez long que vous pouvez trouver en le googlant, qui s'appelle « Les salafis au Yémen ou la modernisation malgré tout », et c'était déjà il y a 10 ans de ça, et je montrais que les salafis, même s'ils retrouvaient la virginité oppositionnelle et réactive que les frères musulmans avaient perdue, entraient eux-mêmes dans un cycle de réappropriation qui les conduisait, par exemple, après avoir nié toute légitimité à la régulation électorale, à eux-mêmes former des partis et à entrer et à accepter le principe de la compétition électorale. Donc, les printemps arabes vont permettre à toutes les nuances du courant islamiste d'accéder à la scène politique légale. Ça va se faire massivement par l'émergence, la régularisation des partis, disons, de la famille des frères musulmans. On va dire Nahda en Tunisie comme étant l'archétype. Mais ça va aussi faire apparaître un certain nombre de formations, les salafis, en tant qu'ils vont décider, ça n'est pas le cas en Tunisie, ils ne sont pas encore institutionnalisés, mais en tant qu'ils le sont en Égypte, de jouer eux aussi le jeu de la compétition électorale. Alors ça va bien sûr opacifier un petit peu la scène, parce que tout d'un coup, l'ennemi absolu, parce que moi je veux bien, Ranouchi est devenu quelqu'un de totalement fréquentable, mais pendant 20 ans, on nous l'a dépeint comme le diable quand même. Maintenant, c'est le gentil qui protège des salafis. Donc n'oublions pas quand même l'essentiel du dispositif. Nous avons commencé à construire un regard à peu près rationnel sur le centre des courants islamistes et nous commençons à nous familiariser avec des partis tels que Nahda. Mais c'était trop beau. Évidemment, sont apparus sur les franges des Nahda des gens qui cultivent la virginité oppositionnelle. Ils n'ont jamais, comme les frères musulmans, fait des concessions ni au régime, ni à la pensée politique occidentale. Et donc, on a un autre cycle réactif avec une fonction tribunicienne. Et comme on est aux extrêmes, attention, manipulation. Une partie de la réalité salafi dans le monde arabe actuellement, c'est une zone d'ombre. J'aime bien, une fois, 50 fois, j'ai fait des conférences sur les printemps arabes, mais là c'était à Madrid, et il y a une dame qui était très, très hostile au courant islamiste, et je la respecte profondément pour ça, mais elle a donné un exemple qui était assez révélateur. Elle a dit... à Tunis, nous avons été agressés par des gens avec des grandes barbes qui nous ont insultés, etc., etc. Elle a dit, ma copine, elle ne s'est pas dégonflée, elle s'est jetée sur lui, elle lui a agrippé la barbe. Eh bien, tenez-vous bien, la barbe, elle lui est restée dans les mains, c'était une fausse barbe. C'est dommage qu'elle ne soit pas allée jusqu'au bout de sa pensée politique et de sa démonstration. Ça nous aurait permis de systématiser une donnée essentielle, c'est que le RCD joue actuellement massivement sur la manipulation de Salafi de Perrette pour, dans une stratégie que l'on connaît depuis que le RCD est tombé, qui était de dire « après moi le chaos », donc comme Ranouchi ne fait plus assez peur, on manipule des petits groupes qui sont extrêmement provocateurs, mais dont il faut s'assurer de l'identité. Et puis encore une fois, il faut restaurer les proportions. Les salafis ont occupé une part importante du champ électoral en Égypte. Ça n'est pas le cas en Tunisie. Il faut donc restaurer. Internet, c'est la meilleure et la pire des choses. Je vais vous choquer, mais il y a eu un poste qui est... Enfin, je l'ai lu sur Internet. Hein. Bon, il y a un poste qui a circulé qui était « Un salafi a violé une vache ». Mais le monsieur qui avait mis ce poste était un monsieur très intelligent. Le lendemain, il a dit « Excusez-moi, Non, il n'a pas dit la vache était consentante. Il a dit c'est totalement faux, c'est moi qui ai inventé cette histoire. Mais j'ai inventé cette histoire pour vous montrer à quel point, dès lors que vous entendez quelque chose d'excessif sur quelqu'un que vous craignez, vous allez relayer n'importe quoi, n'importe quelle bêtise. Et il est évident que des épisodes provocateurs du courant salafi en Tunisie tiennent une place médiatique hors de proportion avec la réalité de l'ancrage social de ce courant. Hein. Donc, on a avant toute chose dans cette région du monde les courants médians de la famille des frères musulmans. Demain, vous verrez, en la personne de Tawakkul Karman, quelqu'un qui est issu. Et je vous expliquerai pourquoi ça ne me plaisait pas qu'il en soit ainsi. Quelqu'un qui est issu d'un courant politique qui a toujours été criminalisé totalement, sans limite, sans restriction par l'opinion publique occidentale dominante. Hein? Donc, la vraie nouveauté du paysage politique arabe, c'est que ces courants médians, avec lesquels il doit y avoir des transactions, nous ne sommes pas sur la complète longueur d'onde sur tout, mais disons à 90% ou à 99% la capacité de ces mouvements à défendre des valeurs que nous considérons comme universelles est parfaitement démontrable. Alors ça, c'est ça la grande nouveauté qui arrive dans le champ post-printemps arabe. Que deviennent les radicaux? Ça, c'était une grande question. Que devient Al-Qaïda? Comment l'islam politique radical est-il affecté par les printemps arabes? On a beaucoup entendu dire, dans cette phase de trompe-l'œil, d'idéalisation, c'en est fini d'Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'est Ben Laden est mort deux fois. Il est mort physiquement de la main des Américains, mais il est mort de façon beaucoup plus efficace. Des peuples arabes qui ont désavoué les méthodes radicales. Oui, mais oui et non. Regardons-y de plus près quand même. Dans le livre que j'ai fait sur Al-Qaïda, je proposais une explication du phénomène Al-Qaïda comme étant l'expression d'un triple dysfonctionnement du politique, un triple échec du politique. Pour faire plus simple, je dirais un triple triomphe du hard power, un triple triomphe de la violence sur la régulation institutionnelle des différents dans le monde. Le triomphe du djihadisme américain, j'aime bien me servir de ce terme en le sortant de son contexte, le triomphe du djihadisme américain, de l'unilatéralisme américain, de cette capacité à militariser sa diplomatie pétrolière après 1990, après le retrait de l'URSS de la scène internationale, le djihadisme israélien, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, c'est-à-dire l'unilatéralisme, le triomphe du hard power dans la régulation d'un conflit régional, le triomphe de la violence sur le droit international, et puis le triomphe de la violence politique à l'échelon national dans ces enceintes dont je disais qu'elles étaient dirigées par les Pinochets arabes, c'est-à-dire des régimes à qui nous donnions un blanc-seing. Pinochet, vous êtes trop jeune, mais bon, c'est 1973, ce sont des régimes d'Amérique latine à qui nous laissons l'usage libre de la torture, pour autant que nos billes, enfin en l'occurrence les billes des États-Unis sur le plan économique, s'y retrouvent. Hein. Vieille formule qui remonte à l'Iran de Mossadegh en 1953, on ne le cite pas assez. Bon, oui, il s'est passé quelque chose de terrible pour les djihadistes. Si je suis, imaginons que je sois jeune, il est évident que si je veux devenir un activiste politique, j'ai moins naturellement la propension de prendre le raccourci de l'action internationale, d'aller m'engager en Afghanistan, si je sais que j'ai devant moi une arène politique où j'ai une chance de faire évoluer les choses. Donc si je suis un jeune Tunisien, si je suis un jeune Libyen, si je suis un jeune Égyptien, le champ politique national a retrouvé sa crédibilité. Et donc toute une catégorie de gens qui étaient dans le tunnel répressif égyptien, tunisien, libyen, entre parenthèses, parce que je l'ai appris juste il y a 2 heures, mais pour qu'on sache quel avait été le comportement des diplomaties occidentales jusqu'à la fin, jusqu'à la veille des printemps. Hein. Celui qui est devenu le gouverneur militaire de Tripoli, qui s'appelait Belhaj, il a tout de même été arrêté en Thaïlande par les services secrets britanniques et remis aux autorités libyennes pré-printemps, c'est-à-dire remis dans le pipe de la torture, heureusement pour lui, quelques jours avant les printemps, mais c'est pour dire que la collaboration sécuritaire avait été totale, sans limite, sans restriction, jusqu'à la fin, hein, la collaboration répressive. Donc évidemment, le fait que des systèmes politiques au niveau local redeviennent fonctionnels, eh bien ça change la donne, ça change la donne du radicalisme. Mais, si le djihadisme israélien continue à bien se porter, si le djihadisme américain au Pakistan et en Afghanistan continue à produire des Robert Bales ou des violences unilatérales d'une telle force, la velléité de certains qui n'y trouveront pas immédiatement leur compte à l'échelon national de garder ce registre de ce qui est perçu comme une contre-violence contre ceux qui maintiennent ce système en vie persiste. Donc à mon avis, on n'a pas complètement tourné la page de postures qui se nourrissent du mécanisme de méreprésentation d'une partie du monde par rapport à l'autre. Donc le djihadisme en perte de sens, pas si sûr que ça, ça dépend de l'état de santé du djihadisme israélien, ça dépend de l'état de santé du djihadisme américain, et merci pour eux, ils se portent malgré tout très bien. Donc la machine à fabriquer du radicalisme politique, malheureusement, n'a pas été complètement déconstruite. Elle est affectée, elle fonctionne moins bien, l'échelon national fonctionne moins bien, mais nous sommes encore dans une configuration qui peut produire de la radicalisation. Je vais faire une conclusion qui est antinomique et antagonique. Elle est construite autour de deux idées complètement opposées. Donc la première idée, celle que j'ai évoquée dans l'introduction, c'est que quand même, j'ai des fois le sentiment, et ça s'est accéléré au cours des 15 jours écoulés, que nous étions en train de revenir à la case départ. Dans la perception de cette formule politique qui oppose de façon dichotomique et simplificatrice l'islam politique à l'Occident, avec des perceptions où toute dimension identitaire est complètement oubliée. Et bon, vous le savez, donc ce n'est pas la peine d'y revenir, la campagne électorale a été une véritable machine à instrumentaliser la stigmatisation à l'égard des musulmans. Et puis la fin, qui est quand même un peu plus positive, je ne sais pas si on peut faire de l'anglais, on peut bien faire un peu de l'anglais, non ? Ça serait pour vous lire 2 paragraphes qui doivent nous redonner un tout petit peu d'optimisme. Il y a des choses quand même qui changent. Non, je ne vais pas vous infliger une longue lecture, mais je vais vous dire quand même où elle m'aurait amené. Vous allez rencontrer demain un produit politique, un produit de l'islam politique. Puisque Tawakkul Karman appartient au parti Islah, et que le parti Islah, c'est un parti qui est proche des frères musulmans, et c'est un parti qui est intéressant, parce que je n'ai pas eu le temps de le dire, mais on a dit aussi des printemps, les islamistes ont disparu, puisqu'on n'entendait pas causer islamistes. On n'entendait pas causer musulmans, il n'y avait pas de panneau qui réclamait, qui usait du lexique musulman, donc c'était la preuve que les islamistes avaient disparu. Voilà, vous avez échappé à mon petit quart d'heure triomphaliste quand je cite les déclarations d'un certain nombre de mes collègues qui expliquait qu'il n'y avait plus d'islamistes. Le plus explicite avait déclaré à Rue 89, on lui posait la question, mais est-ce que les islamistes ne pourraient pas revenir dans les urnes? Et il a quand même déclaré tranquillement, qui dans cette région du monde votera pour ceux qui n'étaient pas là à l'heure de la révolution, hein? Évidemment, bon, les démentis ont été cinglants. Demain, vous allez donc pouvoir juger, je dirais, sur pièce d'un échantillon de ce personnel politique, en l'occurrence yéménite, mais qui est très représentatif à l'universel de cette génération, de la jeune génération des gens qui se sentent à la fois bien en parlant musulman et en luttant contre éventuellement des réminiscences machistes à l'intérieur de leur société. Tawakkul Karman, elle a beau être dans le parti Islah, elle a aussi milité pour abandonner ce qui est, au Yémen, est une norme sociale. Le niqab n'a pas du tout le statut qu'on lui connaît en France. Le niqab au Yémen, vous sortez sans niqab, c'est comme si vous sortiez sans hijab dans un pays très musulman. Donc elle, elle a quand même pris ce pas qui l'a fait insulter, y compris de la part du pouvoir, ce qu'il faut toujours oublier. Il ne faut pas oublier, parce qu'on croit qu'il y a les islamistes et puis les laïcs. Non, l'instrumentalisation de la ressource religieuse, elle se fait très très bien au service d'États répressifs. Elle ne se fait pas nécessairement au service des oppositions islamistes. Donc, vous verrez Tawakkul Karman. Et bien sûr, Tawakkul Karman a reçu le prix Nobel. Et elle a reçu le prix Nobel après que le comité Nobel ait été soumis à un intense lavage de cerveau de la part de milieux internationaux infréquentables. Mais il avait notamment lu un rapport où il était dit, au regard de notre connaissance actuelle, fut-elle encore incomplète des processus en cours dans le monde arabe et des perspectives qu'il laisse entrevoir, le comité Nobel a sans doute devant lui une occasion historique de donner un maximum d'impact à l'attribution du prix annuel pour la paix, en considérant pour la première fois la possibilité de prendre en compte les candidats dont la trajectoire a été nourrie non seulement des rhétoriques familières à l'Occident, mais également des catégories et de vocabulaire qui ne rejettent pas systématiquement les références religieuses que de larges majorités dans le monde arabe considèrent comme endogènes et à ce titre légitimes, eh bien, le comité Nobel a eu la faiblesse de croire ce rapport que je lui ai soumis au mois d'août, avec la complicité intime et active de Laurent Bonnefoy, qui est un chercheur qui vient d'être recruté au CNRS et qui est également un ami. Et c'est vrai que je ne suis pas peu fier, je ne connais pas le processus d'attribution du prix Nobel, mais ce rapport-là a sans doute joué un rôle significatif dans le fait que demain, vous n'accueillerez pas seulement une militante yéménite, mais également le prix Nobel de la paix. Merci infiniment de votre attention.
Y a-t-il d'emblée des questions ?
Il y a un problème d'identité entre arabes et musulmans. Et ça existait depuis les Omayyades jusqu'à nos jours. Donc, qu'est-ce que vous pensez de relations islam-islam ? Comme dans Syrie, au Liban, où il y a dans l'islam plusieurs communautés qui vivent ensemble.
Rapport islam-islam ?
Dans l'islam, en fait. Donc, vous avez expliqué le rapport entre l'islam et le monde.
Il y a, dans l'islam. Vous avez échappé à certaines de mes plus traditionnelles métaphores, mais souvent je dis, si, pour ma part, j'ai une éducation chrétienne, si une nuée divine me touchait et que je décide de devenir chrétien, que du jour au lendemain, ce soit ma christianité qui prenne le pas sur, comme guide d'action sociale et politique. Je me tournerai et je verrai quel paysage. Et je dis, ça commence. Moi, je m'appelle François. Mon saint patron, c'est saint François d'Assise. Il parlait aux oiseaux, chip-chip. C'était un peu soufi, tout ça. Ça va de là jusqu'aux tribunaux de l'Inquisition. Hein? C'est-à-dire que mes façons d'être chrétien socialement et politiquement peuvent être variées à l'infini. Donc, il en va de même en islam. C'est-à-dire que si je deviens demain musulman, il y a une innombrable capacité à diversifier les formes d'expression de ma religiosité. Donc on aura Encore une fois, l'islam, je ne connais pas, je n'ai jamais rencontré, à la différence, je dirais, d'un certain nombre de musulmans pour qui il y a bien un dogme. Moi, je n'ai jamais rencontré l'islam, j'ai rencontré des musulmans. Et l'islam, c'est pour moi ce qu'une majorité sociologique ou crédible de musulmans, dans un contexte social et politique donné, me dit que c'est. Hein, je dis, ben c'est ça l'islam. Mais si demain, des musulmans crédibles me disent, et je prends toujours le même exemple, il est emblématique, est-ce qu'on peut épouser une, deux, trois ou quatre femmes, ça dépend si vous donnez le primat à la principale ou à la relative. Épouser une, deux, trois, quatre femmes, sauf si vous craignez de ne pas leur accorder l'égalité. Si aujourd'hui je donne le primat à la principale, l'islam est pour la polygamie, et si demain je donne le primat à la relative, l'islam s'oppose à la polygamie. Donc il y a dans le monde musulman des expressions de la religiosité qui sont ancrées dans des historicités différentes, qui ont donné lieu à des différences d'expression, bien sûr, le chiisme et l'ensemble des, on ne va pas dire sectes, mais l'ensemble des expressions, des formes d'appropriation du dogme. Donc si c'est ça que vous voulez dire, il y a une infinie pluralité d'expressions de l'islam. Opposer islam et islamisme ne fait pas sens pour moi. D'abord, il n'y a pas une convention internationale qui dit ce que c'est que le mot islamisme. Hein. C'est uniquement, on est sur le terrain des sciences sociales. Si on a besoin d'un mot pour stigmatiser, bon, mais je m'étonne pourquoi il n'y a pas, pourquoi christianisme n'a pas le même sens, ou pourquoi il n'y a pas juivisme pour dire appropriation politique excessive de la religion hébraïque. Il n'y a pas. Mais le débat sur la terminologie, pour moi, ne me semble pas être un débat producteur. Donc, islamisme, pour moi, ce n'est pas un débat. Il y a simplement une conjoncture historique qui fait que l'appropriation ostentatoire de l'appartenance à la culture musulmane fait recette et nous permet d'expliquer l'émergence de courants politiques qui vont être plus efficaces. Pourquoi les communistes ne mobilisent plus beaucoup et pourquoi les islamistes mobilisent plus. C'est tout ce que j'ai essayé de démontrer. Encore une fois, je ne dis pas la norme. Je ne dis pas lui il a raison, l'autre il a tort. J'ai expliqué pourquoi dans cette conjoncture on a l'émergence de ces courants-là. Qu'est-ce que ça nous permet d'anticiper sur leur façon de se comporter au sein de leur société et sur la scène internationale.
J'ai entendu l'autre jour un représentant des Frères musulmans dire que ça ne lui plaisait pas du tout de parler d'islam politique. Est-ce que vous pouvez définir l'islam politique ?
Non. Non, il y a pas, la terminologie n'est pas, il n'y a pas une terminologie officielle. Je prends souvent un exemple, quand j'ai écrit le premier livre en 1988, c'était marqué « L'islamisme au Maghreb ». Je l'ai présenté à Abbasi Madani, le leader du FIS à l'époque, il a dit « Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça n'existe pas l'islamisme, on est tous des musulmans ». Et puis je l'ai présenté à Rached Ranouchi à côté, qui avait beaucoup influencé mon écriture, et Rached Ranouchi utilise le terme islamiste. Il dit, ben oui, nous avons conjoncturellement besoin d'un terme qui dissocie le musulman passif avec celui qui veut un engagement ou sa foi. Donc, un musulman orthodoxe central vous dira, l'islam est politique, l'islam a une vision politique. Mais dans le même temps, si vous regardez bien les pays les plus religieux, le phénomène de sécularisation s'est déjà produit au sein des sociétés musulmanes concrètes. Hein ? Il y a un petit reste en Iran avec le Wilayat Faqih, qui est une institution où la légitimité religieuse interfère avec celle qui est distribuée politiquement. Mais sinon, partout ailleurs, nous avons des phénomènes monarchiques, ça c'est autre chose. Hein ? Mais c'est pas la légitimité religieuse. Donc, on a dépassé le stade de la théocratie. Alors, islam politique, qu'est-ce que ça veut dire ? Si c'est au sens où je l'ai employé, moi, c'est pour définir ces courants politiques que le sens commun appelle islamistes. Mais que le mot islamiste est un mot difficile à employer parce qu'il a pris une connotation tellement négative, on peut être accusé, soupçonné d'islamisme. Alors que pour moi, quand je l'ai employé pour la première fois, je lui ai donné une portée qui n'avait rien de stigmatisant. Mais nous vivons dans un univers où, effectivement, alors pour le coup, ça rapporte de stigmatiser la dernière couche de l'apport au tissu national. Ça rapporte énormément dans le tissu politique français de stigmatiser l'autre. On l'a longtemps stigmatisé sur la base de son ethnicité. On n'aimait pas les Arabes. Et puis, on est passé maintenant à la couche religieuse. On a un problème de corrélation avec le musulman. Donc, c'est très, très difficile de définir une terminologie qui serait acceptée de façon consensuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'on met derrière les mots.
Oui, effectivement, quand je suis arrivée en France en 1975, je n'entendais pas le terme islamique ou islamiste, j'entendais musulman. Et tout d'un coup, l'adjectif musulman, il a disparu des tribunes, des journaux, etc. Bon, merci.
J'ai vu une étudiante l'autre jour qui a fait, alors, vous ne connaissez peut-être pas cet instrument qui est absolument fabuleux, c'est un des instruments de Google. Google vous permet de fouiller, non pas seulement dans l'univers d'Internet au sens contemporain du terme, mais il vous permet de fouiller dans tous les livres qui ont été numérisés par Google. Et ça commence à faire quelque chose d'absolument extraordinaire. Et donc cette fille a fait une recherche sur le terme islamisme de 1860 à nos jours. Et c'est assez étonnant, parce que le terme islamisme était l'équivalent d'islam à une certaine époque. Hein, et puis après, il disparaît complètement. Et effectivement, dans le courant des années 70, évidemment avec 79, on le voit partir en flèche dans toute la littérature. Mais au 19e siècle, il a un sens tout à fait banal. Islamisme est l'équivalent d'islam. Encore une fois, la terminologie, il ne faut pas essayer de lui faire dire grand-chose. Il faut savoir que le terme islamisme est un terme stigmatisant et que nous avons tendance maintenant à l'employer à l'égard d'une écrasante majorité de la communauté musulmane. Je voyais avant-hier une déclaration, je vais choquer un peu, mais pendant longtemps en France, un bon musulman était un musulman qui n'était plus musulman. Un musulman acceptable, c'est un musulman qui, à l'heure de la prière, ne refuse pas de venir boire un pastis. Celui-là, alors j'avais forgé cette formule, elle vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai dit les alcools laïcs, on aimait bien. Dès qu'on déborde et dès qu'on a une affirmation, simplement, dès qu'on devient un pratiquant, c'est-à-dire les exigences alimentaires, les prières, c'est-à-dire le corpus majoritaire de la population musulmane en France, qui est organisé dans l'organisation des l'organisation, aidez-moi, des Unions islamiques de France, UOIF. Eh bien, quelqu'un dont je ne veux pas citer le nom, mais qui est une de ces créatures médiatiques à qui on a donné le pouvoir médiatique parce qu'elle dit du mal des musulmans quand on appuie sur le bouton, et expliquait hier que l'UOIF est à l'islam ce que le Front National est à la France. Et ça veut dire que le curseur de la stigmatisation des musulmans s'est déplacé sur 80% de la population musulmane. Parce que dès lors que l'on est croyant et pratiquant, on devient identifié à l'extrême. Alors ça, c'est dangereux, ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire. Et il faut dire que nos amis alco-laïques, moi, je suis beaucoup plus proche de quelqu'un qui n'est pas religieux. Je ne suis pas religieux, moi. Donc, instinctivement, je suis plus proche de quelqu'un qui n'est pas religieux. Mais en tant qu'analyste, en tant que citoyen, je sais très bien que je ne peux pas imposer une catégorie sur la totalité d'une population sous prétexte qu'elle me ressemble davantage. Et nous avons donc eu une incapacité totale à nouer une relation dépassionnée, construite, ou simplement à admettre qu'un lexique autre que le nôtre pouvait légitimer des valeurs comparables aux nôtres. L'exemple que j'emploie tout le temps, mais je pense qu'il faut le réemployer, nous croyons souvent que nous avons des valeurs différentes. Et moi, je m'engueule avec mes amis musulmans. Quand j'entends les valeurs de l'islam, les valeurs de l'Occident, je sors mon fusil. Je ne suis pas d'accord. Je pense que le socle des valeurs humanistes est commun. Ce qui nous distingue, c'est les matériaux symboliques que nous extrayons de nos histoires respectives pour les légitimer au sein du groupe. Donc, si je veux faire de la justice sociale et que je suis communiste dans les années 50, je dis « Lénine a dit ». Donc, si je suis chrétien, je dis « Le petit Jésus nous a très bien démontré ». Donc, et si je suis musulman, je dis « Comme il l'a dit dans le Coran el-Karim ». Donc, et à la fin de la journée, nous avons souscrit à une valeur qui est commune qui est celle de la redistribution de la richesse ou de la protection des faibles et des minorités, etc. etc. Mais ça, c'est quelque chose qui ne passe pas dans le discours politique dominant. Et ça, c'est très inquiétant. Parce que quand on dit avant-hier, Tarek Ramadan met en danger la République, quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'intellect de celui qui produit une norme de ce type. Hein ? On est en danger de régression mentale. Ça veut dire qu'on n'a plus les capacités de déconstruire un discours, de l'articuler. Je parle là d'un communiqué officiel, vous avez dû voir ça, un communiqué qui a été issu à propos des invités au colloque à la rencontre du Bourget, organisé par l'Union des institutions, des organisations, non pas musulmanes, islamique de France, OUIF. Voilà, c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'on est arrivé à un degré où la norme politique, l'autre exemple que j'emploie tout le temps, mais je ne peux pas m'en passer non plus, c'est Jacques Chirac et Tony Blair en 2004. Jacques Chirac dit la Grande-Bretagne et les États-Unis, non, la Grande-Bretagne et l'Europe, non, les États-Unis et l'Europe, il dit, sont deux pays qui ont des valeurs communes. Nous avons donc des guerres à mener ensemble. Contre qui ? Contre le reste du monde dont le non-dit est qu'ils n'ont pas des valeurs susceptibles d'être défendues. Et là, on voit bien que ça coince. Et pourtant, ça passe tout à fait naturellement. Et le non-dit est terrifiant. C'est-à-dire tout le reste de la planète n'a pas de valeurs susceptibles d'être considérées devant être défendu par nous autres. Donc voilà, c'est ça le problème, c'est ça le défi intellectuel et citoyen, à mon sens, maintenant.
Monsieur Brocaf, j'ai deux petites questions. La première, c'est est-ce que l'islamisme n'est pas une étape nécessaire à la sécularisation de l'islam ? Au fond, l'épreuve du pouvoir, enfin, que vous soyez islamiste ou pas, enfin, oui, dans les pays de la rive sud de la Méditerranée, c'est il faut d'abord trouver du travail et prier n'a jamais résolu le chômage ni créé... de l'emploi. Donc du coup, est-ce que le fait que les islamistes remportent les élections maintenant, en gros, on va pouvoir juger leur bilan d'ici 5 ans, et s'ils n'arrivent pas à créer de l'emploi pour les jeunes, bah, les gens vont moins croire en leur discours, parce que c'est facile d'être dans l'opposition dans ce type de pays, mais en revanche, être aux manettes, c'est un peu plus dur. Enfin, quand vous avez des pays où il y a un taux de chômage important, que vous soyez islamiste ou pas, si vous n'arrivez pas à faire un miracle pour le coup économique, les gens vont avoir moins de crédibilité pour vous. Et la deuxième question, c'est par rapport en fait, à la diplomatie française. Enfin, vous dites qu'elle n'aime pas les islamistes. C'est pas, enfin, je vais mettre un bémol parce que les meilleurs amis de la diplomatie, par exemple de Sarkozy, c'est quand même la deuxième monarchie wahhabite au monde, qu'est le Qatar. Donc ils sont très amis avec les islamistes. Le fait, c'est que la diplomatie européenne, enfin, entre guillemets, critique l'islam, l'islamisme, ne critique jamais l'émetteur de l'islamisme, qui sont le wahhabisme qatari et saoudien. Et c'est un islam radical qui est devenu un islam normatif. Enfin, c'est devenu la norme. Bon, aujourd'hui, quand on parle d'islam, on parle quasiment de wahhabisme. Alors que le wahhabisme et l'islam, ce que, je sais pas moi, le témoin de Jéhovah serait au christianisme. Donc, comment on justifie en fait, cette ambivalence où, au fond, on critique les extrémistes, mais en même temps, on fait du business avec eux. Enfin, en mode, Inch'Allah, ils nous achètent des rafales. Enfin, en gros.
Alors, à votre première question, je veux même pas... mettre les islamistes dans mon champ de vision, je dirais simplement, il faut que les forces politiques réelles, il faut que les pays soient dirigés par les forces politiques réelles, point barre. J'ai même pas besoin de savoir quel lexique elles emploient pour que la schizophrénie prenne fin dans cette région du monde. Il faut que les mécanismes de représentation prennent le pas sur les mécanismes autoritaires. La couleur des forces politiques qui sortent, pour moi, c'est accessoire. Elles ont été choisies dans des conditions crédibles par une majorité de la population. Alors, je sais, vous allez me dire, les nazis sont arrivés, on connaît le truc. Mais on n'a malgré tout rien trouvé de mieux que de laisser les populations choisir leurs dirigeants. Parce que si on commence cette logique, mais les nazis... Moi, je dis, je vous donne un stylo rouge. Hein, vous venez au tableau. Et vous commencez à me dire les pays où on doit laisser les gens voter et ceux où on ne doit pas les laisser voter. Ça ne va pas être facile. Hein. Est-ce qu'on les laisse voter au Maroc et en Algérie et en Tunisie? Bon, donc je pense qu'on n'a rien trouvé de moins pire que de laisser les forces politiques réelles effectivement exercer le pouvoir en se disant que des formes de régulation, que de toute façon il serait très difficile de faire pire que ce qui s'est passé jusqu'à présent. Hein. Parce que quand on dit la démocratie est en danger, je dis laquelle ? Celle de Ben Ali, celle de Moubarak, celle... Hein, bon, une de mes radoteries principales, mais j'y cède aussi, c'est de rappeler qu'en 1990, entre les deux tours des élections les plus manipulées qu'on puisse imaginer, l'expression que j'employais à l'époque, je disais Moubarak bourrait les prisons, où je vivais en Égypte, bourrait les prisons d'une main et les urnes de l'autre. Entre les deux tours des élections arrive le président du Sénat français, Alain Poher, pour remettre au président Moubarak le prix Louise Michel des droits de l'homme et de la démocratie. Hein, ce prix dont sont titulaires successivement le président Ben Ali, le président Moubarak. Ben Ali l'avait eu 2 ans avant, donc il était jaloux, Moubarak, pof, Moubarak l'a eu, prix Louise Michel des droits de l'homme et de la démocratie. Moi, j'avais des amis qui mouraient sous la torture à ce moment-là, parce qu'on mourait sous la torture en Égypte. Hein. Et après, qui c'est qu'il a eu, je vous donne en mille ? Eh bien, c'est le président algérien, le troisième à l'avoir eu, le prix de la... Bon, voilà. Donc, est-ce qu'on peut faire pire ? Non. Alors après, je ne vais pas être d'accord avec vous. D'abord, je n'accepte pas les hypothèses qui font de l'islamisme quelque chose qui est venu de chez le voisin. Quand on se promène dans le monde arabe, on a toujours, toujours, toujours une explication en termes d'influence étrangère. C'est l'Arabie Saoudite. Alors quand on est en Algérie, on lui dit oui, c'est les frères musulmans, on les a importés pour apprendre l'arabe à nos enfants. Et paf, ils nous ont collé le virus. On va en Égypte et on vous dit, oh mon pauvre ami, nous on n'avait rien, mais nos travailleurs ont parti dans le Golfe, ils ont ramené la tenue du hijab. Vous allez dans le Golfe, on vous dit, mais... À la proximité de l'Iran, pensez-vous qu'il était possible de résister ? Non, je crois qu'il est dangereux de surdéterminer l'influence des variables étrangères. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite qui fait l'islamisme dans le monde arabe. C'est un processus historique qui est enraciné dans chacune des sociétés, avec des variables, bien sûr, quand on rajoute 3 sous. Mais si c'était l'Arabie Saoudite qui avait fait fabriquer l'islamisme, pourquoi, à ce moment-là, aurait-elle été dans le collimateur de la réaction radicale islamiste ? Si elle est capable de l'exporter, pourquoi elle n'est pas capable de le contrôler ? Donc, on va garder un différent, on va garder une différence. L'idée que le wahhabisme explique tout, ça nous fait retomber dans des explications généalogiques. Vous comprenez ? Il est devenu islamiste parce que, oh merde, il a ouvert le Coran à la mauvaise page et puis il l'a lu à l'envers, il n'a pas bien compris la sourate et tout. Non, c'est pas une explication. Quand je veux me radicaliser, si vous me marchez sur le pied, si vous me mettez les boules, au bout d'un moment, je vais trouver un lexique pour exprimer ma réaction. Ce lexique, il y a 20 ans, j'aurais peut-être été maoïste. Et cette année, je vais être islamiste dans une conjoncture historique donnée. Mais le lexique ne détermine pas le comportement des acteurs. On peut être radical. N'importe quel dogme, n'importe quelle religion a produit des dérives radicales et sectaires. C'est pour ça que le wahhabisme qui explique tout, personnellement, j'ai des difficultés. Alors, par contre, je vais vous suivre tout à fait sur cette dichotomie de nos relations avec les islamistes méchants et les islamistes gentils. Non, le concept, il n'est pas là. Le concept, il est que de dictateurs soumis et de dictateurs rebelles. Un dictateur ne devient dictateur dans les catégories de la diplomatie occidentale qu'à partir du moment où il est rebelle sur la scène internationale. S'il est soumis, il n'est pas dictateur. Et donc, et sur tous les terrains, nous ne libérons pas la femme saoudienne. Nous libérons la femme iranienne. Et nous libérons la femme de ceux qui nous résistent. Donc là est la différence, effectivement. Notre système de valeurs, malheureusement, est trop souvent à 2 vitesses, à géométrie variable, en fonction de nos intérêts économiques. Et ça, nous sommes tout à fait d'accord.
Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un enjeu c'est-à-dire une concurrence en termes de récupération de ce printemps arabe par rapport au Qatar et l'Arabie Saoudite. Quel est le statut de ces pays par rapport à ces révoltes arabes? Et puis, j'aurais voulu que vous interveniez là-dessus. Voilà, merci.
Merci, je vous remercie de me permettre de dire un mot justement sur la concurrence de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Vous avez totalement raison, ils ne jouent pas la même partition sur la scène internationale. Moi, je vais la désidéologiser. Je vais créer le concept de l'OG, non pas l'ONG, mais l'OG, Dictateurs sans frontières. Il y a l'organisation, il y a l'association Dictateurs sans frontières. C'est-à-dire il y a tous les gens qui, pour l'instant, n'ont toujours pas avalé qu'un mouvement populaire pouvait venir à bout d'un pouvoir établi. On va dire que dans ce spectre-là, le Qatar, je dirais, il est comme les Français. Il a clairement pris le parti qu'il allait soutenir les mouvements populaires, peut-être parce que lui-même, pour des raisons économiques ou pour toutes sortes de raisons, ne se sent pas directement menacé par un mouvement populaire interne. L'Arabie Saoudite se sent mal face au printemps arabe. Ça lui fait peur. Et il semblerait... Je discute des fois avec Tarek Ramadan et il nous arrive d'être d'accord et il nous arrive d'être pas d'accord. J'étais pas d'accord l'autre jour avec lui quand il amplifiait, à mon sens, le rôle de l'Arabie Saoudite pour pousser les salafis. Il a peut-être pas si tant tort que ça. Et c'est vrai que on dit parfois que les salafis pourraient être l'instrument des Saoudiens pour empêcher une ouverture politique crédible en Tunisie ou en Égypte. Ça leur plairait bien de voir les printemps arabes échouer et de tourner en chaos parce que ça réfrénerait les ardeurs de leur propre population et surtout de la classe politique occidentale dont un certain nombre de dirigeants n'arrivent pas à se remettre qu'elles aient pu jouer le jeu des révolutionnaires. Alors donc effectivement, je suis... Enfin, en tout cas, il y a un axe à creuser sur cette diplomatie. Mais nous avons un spécialiste dans la salle. Il a un micro à la main. Nous avons un spécialiste du Qatar, en la personne de Robin, qui nous dira sur quel site on peut aller lire la dernière synthèse sur le... Enfin, recherche sur la diplomatie du Qatar. Il y a effectivement deux registres très différents joués par l'Arabie Saoudite et le Qatar sur la scène internationale face au printemps arabe. Et c'est un axe de lecture intéressant.
Ils sont d'accord, on voit, sur la Syrie, hein, les deux.
Alors, ils sont d'accord tous les deux sur la Syrie, mais pour des raisons très, très, très... Ouais, bon, on a pas du tout abordé le fait que la variable religieuse dans les printemps arabes a une sonorité très différente selon que le tissu religieux de la société est monolithique, comme en gros en Tunisie et en Égypte, ou que nous nous trouvons dans la configuration du Proche-Orient avec la mosaïque confessionnelle. Et donc, la situation en Syrie, il faut introduire une variable différente. Le pouvoir appartient à une minorité chiite, la majorité la plus opprimée est sunnite, la laïcité du régime, c'est pas tant, parce qu'ils sont pas si laïcs que ça les Syriens. Vous avez des grands panneaux partout, Dieu protège la Syrie, tout ça. Le Dieu qui est pour tout le monde, ça va, mais le Dieu de la majorité démographique, lui, il fait peur. Et donc, la Syrie est davantage laïque pour se prémunir de l'accès du lexique de la majorité sunnite à l'universel politique que par principe éthique. Alors donc, effectivement, c'est tout un volet supplémentaire. Et je vous renvoie aux aventures d'un certain Jean-Marie Cléry. Jean-Marie Cléry, c'est un mec très bien que j'ai beaucoup connu et qui m'a servi de nom de plume pendant tout le temps que j'étais en Syrie et que je ne pouvais pas écrire sous mon nom. Donc si vous, si vous googlez les aventures de Jean-Marie Cléry, C-L-E-R-Y, ou si vous faites par exemple l'impasse syrienne, entre guillemets, vous tomberez sur ma prose. Je suis très frustré depuis un certain temps, je ne peux plus m'exprimer. Donc par exemple, dans le dernier « L'état du monde », l'anatomie des printemps arabes, c'est ce terrible Jean-Marie Cléry, eh ben, il est en face de vous. Et il est bien content de faire votre connaissance. Mais effectivement, on ne peut pas entrer dans la problématique syrienne. Mais effectivement, la variable religieuse ne fait pas l'objet de la même instrumentalisation selon qu'on est en Tunisie où on n'a pas le potentiel d'instrumentalisation sectaire. Hein. La technique du régime syrien a été assez extraordinaire pour semer le feu sectaire, en fait, parce que c'est ce qu'il a fait. Hein, pour réduire la révolte dans ce qu'elle avait d'universel et de démocratique à une rébellion radicale, sectaire, des seuls sunnites, hein, pour faire peur donc, aux chrétiens et aux alaouites, le cas échéant aussi un petit peu aux druzes, mais c'est une problématique dans laquelle on n'a peut-être pas le temps de rentrer maintenant. Mais bon, je vous renvoie aux aventures de Jean-Marie Kerr.
En fait, moi j'ai des petites questions. La première, elle concerne votre analyse de la position des chancelleries occidentales au moment au moment du déclenchement du printemps arabe. Certains pensaient que les occidentaux ont misé, ont tiré un calcul selon lequel ils disaient nous on va accompagner ce mouvement parce qu'on pensait que soit ce sont des islamistes qui vont arriver au pouvoir, mais leur mode de gouvernement, il serait compatible avec notre démocratie, si jamais il y aura des scrutins libres dans cette région du monde, il n'est pas du tout sûr que ce sont les islamistes qui l'emporteraient. Est-ce que vous privilégiez cette seconde hypothèse, c'est-à-dire à savoir que les Occidentaux ont dit que finalement, on a vu le déroulement des manifestations, les islamistes n'étaient pas omniprésents, donc si jamais il y a des scrutins libres, ils ne l'emporteraient pas probablement. Ma première question. Ma seconde question, elle revient à la question de notre ami tout à l'heure, sur les dilemmes dans lesquels, face auxquels se trouvent les islamistes aujourd'hui. S'il applique la charia, il serait dans une impasse économique. S'il n'applique pas la charia, ils n'auront pas quelque chose de caractéristique, de propre par rapport aux autres formations politiques. Et à ce moment-là, ils risquent de se trouver face à une opinion publique islamiste qui leur disait « Écoutez, qu'est-ce que vous avez fait de particulier à partir du moment où vous n'avez pas appliqué la charia ?» Et ça revient aussi à valider a posteriori une pensée du défunt Hassan II, qui dit à son âme, qui, en 1992, avait dit qu'il le fallait laisser le fils exercer le pouvoir en Algérie.
Alors, sur les ressorts de la diplomatie française, c'est très prétentieux de dire les connaître, mais ce que je peux redire, c'est que c'est vrai qu'il y a eu un moment où les Français étaient convaincus, où tous les ténors de la lecture des courants islamistes nous expliquaient que les islamistes avaient disparu. Ils ont disparu pendant plusieurs semaines. Regardez bien la presse. Tout le monde nous expliquait. L'un de mes grands collègues disait ils ont été ringardisés. L'autre disait ils ont disparu. Plus jamais quelqu'un dans cette région du monde ne votera pour eux. Et il est évident que la diplomatie française a été d'autant plus soulagée, enfin d'autant plus a d'autant plus changé facilement son fusil d'épaule que l'hypothèque de l'islamisme, en tout cas radical et inacceptable, était levé. Ça, c'est sûr que ça a joué. Alors après, qu'est-ce que c'est être islamiste au pouvoir ? Comment des islamistes vont-ils garder leur capacité de mobilisation ? D'abord, la notion de charia, pour moi, ce n'est pas un concept scientifique. On est sur le terrain du symbole. Il y avait une carte l'autre jour qui était publiée par le dessous des cartes qui est assez remarquable. La charia est une source directe de la législation dans tous les pays arabes à peu près quoi. C'est quelle interprétation, quel sens on donne, quelle expression normative on va donner d'un principe qui est que l'on respecte la charia. Pour moi la charia ça veut dire notre société a-t-elle la capacité de puiser dans son système de fabrication de normes les ressources nécessaires à la gestion du groupe et de ses relations avec le reste du monde? C'est tout. Est-ce qu'on est capable de faire dans le homemade? Bon, ça, il faut effectivement... C'est la ressource symbolique principale des islamistes, c'est que nous satisfaisons un besoin identitaire qui est de prolonger sur le terrain symbolique ce processus de remise à distance de la présence occidentale. Ça, je pense que cette alchimie elle est encore en train de fonctionner. Après, au niveau des choix juridiques, bon, vous avez vu quand même, Nahda a fait un choix assez spectaculaire. Nahda a dit, on n'appliquera pas la charia. Il a employé l'expression, on n'appliquera pas la charia. Donc, nous avons déjà un courant central hein, dans le paysage expérimental qui se sent capable de se démarquer d'une des ressources symboliques les plus emblématiques hein, de son islamité pour gérer les exigences de sa coexistence avec les autres forces politiques. Ennahda le joue quand même relativement fin. Ennahda ne voulait pas la majorité. Ils l'ont dit, ils ne voulaient pas la majorité et ils ne l'ont pas eu. Et maintenant, si vous regardez bien le parti de Moncef Marzouki, vous allez voir que quand même, il y a pas mal de gens qui ont trois poils de barbe au menton dans ce parti. Mais il était souhaité qu'il n'y ait pas un phénomène qui fasse peur, qui radicalise la petite minorité qui se sent en danger et qui radicalise l'opinion publique internationale. Donc, à mon avis, que feront les islamistes? Les islamistes, ils ont conjoncturellement un appareil de mobilisation politique qui est plus fonctionnel que quand c'était un dictateur. Point barre. Mais après, ils ne vont pas sortir un lapin de leur chapeau. Ils ont des sociétés qui ont des ressources, qui ont des capacités, qui ont des potentiels. Ces potentiels, une société est plus fonctionnelle si elle a des institutions politiques qui sont fonctionnelles. Point barre. Hein? Après, tout le reste... Bon, est-ce que la société... égyptienne était fonctionnelle avec le pouvoir politique, avec les phénomènes de clientélisme, de corruption, etc. Eh bien non, ces sociétés étaient rongées par le politique. Quand vous voyez le nombre d'agents de sécurité qu'il fallait maintenir en Égypte et en Tunisie, la fonction publique, je n'ai plus les chiffres, mais c'est absolument terrifiant. Hein, vous savez, la plaisanterie, on disait un Tunisien sur deux est policier et l'autre est indicateur. Mais il fallait ça pour maintenir la société en état de, bon, d'apparence pacifique. Donc ça, c'est un gain important. Les islamistes vont, oublions le lexique, ce sont simplement des élites politiques qui seront moins en tension avec les sociétés qu'ils ont la vocation à mobiliser dans des combats économiques, politiques, qui ne sont pas faciles, hein, qui sont des défis. Mais voilà, c'est tout. Hein.
La dernière question, c'est celle-ci. Vous me dites, vous ne savez pas ce que c'est que l'islam politique. Ben, vous avez tort. Parce que le politique, c'est quoi? C'est la saisie de l'État dans le partage de la dévolution du commandement. Quand l'islam se saisit de la dévolution du commandement, il islamise le commandement. Et qu'est-ce que c'est que l'islamisation du commandement? C'est l'islamisation de l'État. Et qu'est-ce que l'islamisation de l'État? C'est l'introduction dans le droit politique du droit religieux. Et la question que je vais vous poser, c'est celle-ci. Quel est pour vous le sens du droit religieux dans l'islam en tant qu'il se saisit du politique, c'est-à-dire en tant que l'État devient État islamique, c'est-à-dire État dans lequel la loi est islamique?
Merci beaucoup. Nous ne sommes pas si opposés que vous le croyez. Il y a en tout cas des terrains sur lesquels nous pouvons communier. C'est la lecture de l'histoire algérienne depuis 1990. Il n'y a pas très loin d'ici la cour d'assises spéciale du terrorisme. J'étais expert cité par la Défense pour le métro Saint-Michel. C'est dire que j'ai mis le doigt dans ces... dossiers en tout genre, depuis les moines jusqu'aux explosions, et que je sais comment la violence a été instrumentalisée par les généraux et comment a été instrumentalisée une certaine fraction radicale. Oui, ça c'est vrai. Le régime algérien a fabriqué une frange radicale pour mieux l'instrumentaliser et assurer sa survie. Sur ce point-là, nous sommes d'accord. Par contre... S'agissant, j'ai l'impression que vous parlez d'un monde que vous avez connu sous un angle particulier et après dont vous vous êtes séparé. L'Union tunisienne des femmes démocrates, pour moi, ne peut pas représenter le seul axe de la modernisation du tissu. Et quand je dis modernisation, je fais référence à des valeurs que nous partageons. D'accord ? L'introduction de la rationalité, une certaine distanciation à l'égard des religieux. Je l'avais dit en ces termes à l'époque, pour moi, les héroïnes politiques du Maghreb, ce n'est pas les dames qui ont dans leur bulletin de naissance, réclamer davantage de répression des jeunes filles portant le voile. Parce que ça, c'est le bulletin de naissance de l'Union tunisienne des femmes démocrates. Leur premier communiqué, c'est quand même de demander aux tyrans un peu plus de répression sur la génération islamiste. Après, ça s'est diversifié. Après, elles ont établi des passerelles. Après, ça s'est complexifié. Mais ça commence comme ça. Et j'avais dit à l'époque, pour moi, les vraies héroïnes du politique dans le Maghreb, c'est Louisa Hanoun, ou c'est des femmes qui ont, dont on va dire qu'elles sont non-islamistes, ou même anti-islamistes, et qui néanmoins, pour moi, les héroïnes ou les héros du politique arabe, c'est ceux qui ont signé Santé Gidio en 1995. C'est-à-dire ceux qui ont des casquettes et des historicités politiques différentes. Je suis une femme, j'ai une mini-jupe, je suis trotskiste, mais j'admets néanmoins que je peux serrer la main à Anwar Haddam, et que nous pouvons faire un bout de chemin ensemble au nom de valeurs politiques partagées, même si nous ne les exprimons pas, même si nous ne les légitimons pas avec des matériaux issus des mêmes histoires. Ça, pour moi, c'était les vrais héros de la modernisation, au sens où vous l'entendez. Hein, simplement, je n'attribue aucun monopole politique, au contraire, à cette catégorie de ce que j'appelais les féministes d'État, hein, qui se sont quand même dangereusement appuyés, et l'Algérie en a fabriqué beaucoup, hein, qui ont, je dirais, détourné une lutte universelle, la lutte des femmes, au service de la prorogation d'un système politique qui fabriquait de la radicalisation. Donc là, je pense qu'il y a un malentendu. Après, je vais vous faire une concession énorme. Je me fais tout le temps engueuler par les religieux qui disent « Vous ne pouvez pas aller si loin que ça quand vous comparez le religieux avec n'importe quel dogme. Il y a un truc qui ne va pas, mon cher Burga. » Y compris, d'ailleurs, je vais vous faire plaisir. Yassine, le Marocain, mais je le cite dans l'islamisme au Maghreb, il me dit « Burga, vous êtes un mec sympa, on vous aime bien, mais il vous manque un petit quelque chose. C'est le compartiment où on saisit le religieux pour ce qu'il est. Hein? » Bon, je simplifie à peine, il me le dit, et je l'admets. C'est vrai que moi, je mets les dogmes sur le même plan, et il y a toujours quelqu'un dans la salle qui me dit « Ouais, 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 là, vous dérapez, vous ne pouvez pas mettre des systèmes de croyances sur le même plan lorsqu'il y en a un qui est religieux, et on se sépare comme ça, avec une différence, il faut bien qu'il reste une différence. » L'islam politique, je pense que j'ai déjà répondu à la question, puisque j'ai dit que le processus de sécularisation des sociétés musulmanes est déjà largement entamé. Alors là, quand vous m'avez décrit le monde musulman avec la religion, je dirais ça, c'est un petit peu essentialiste. Moi, ce que je connais de ce monde, c'est que j'y vis. J'en suis à 23 ans maintenant. C'est l'endroit où je vis. C'est l'endroit où j'ai mes capteurs. Hein. Je n'ai pas des capteurs pendant une période de l'histoire dans un pays. J'ai eu la chance énorme de pouvoir vivre 7 ans en Algérie. C'est pour ça que j'y suis resté extrêmement attaché et que j'ai un réseau de capteurs assez important parce que j'ai eu des centaines d'étudiants, mais après 5 ans en Égypte, mais après 6 ans au Yémen et après 4 ans en Syrie. Donc j'ai multiplié les capteurs dans l'espace et dans le temps. Sur cette base-là, je vous dis que l'image que vous avez du monde musulman actuel n'est pas réaliste. Il y a toute une génération qui vous échappe, qui n'est pas aussi imprégnée que vous le pensez du sens religieux. Le processus de sécularisation est déjà largement entamé au sein de ces sociétés. Donc le différent que vous estimez devoir mettre en avant au bénéfice de ces 3% de femmes, à mon avis, ne repose pas sur la réalité sociologique. Voilà, je vous ai fait quand même une grosse concession. Je ne suis pas un individu religieux, donc quelque part, il faudrait que je rajoute un tout petit peu de profondeur à ma perception d'une pensée lorsqu'elle s'inscrit dans le religieux. Il n'empêche que, je pense quand même que je décris mes islamistes de façon relativement scientifique lorsque je décris le comportement des acteurs politiques dans leur relation au dogme, certes, au niveau du discours, mais à mon sens, quand il s'agit de fabriquer des majorités électorales, à un réservoir de ressources identitaires qui permet de tourner une page de l'histoire où les catégories de la culture occidentale ont été envahissantes et traumatisantes. Nous n'avons pas une théocratie en Tunisie du fait de l'arrivée de Nahda au pouvoir. Voilà la réponse, elle est très claire. Nous avons des résidus de théocratie en Iran du fait du mécanisme constitutionnel de Vilayat e Faqih. Mais l'arrivée au pouvoir des frères musulmans en Tunisie ne fait pas entrer le politique dans une ère de la théocratie.